Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Tati Mampoukou.
Okapi.
Chers auditeurs, auditrices de Radio Okapi, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Quels sont les préalables à réunir avant de réviser la loi se rapportant à la libéralisation du secteur de l'énergie électrique en RDC? Nous en parlons avec Emmanuel Moussouyou, il est coordonnateur de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP en sigle. Monsieur Emmanuel Moussouyou, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous d'Okapi Service.
Merci beaucoup, monsieur Tati.
Si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez vos commentaires, témoignages et suggestions au numéro 099-706-941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous attendons aussi vos suggestions, témoignages et commentaires dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mampoukou, c'est moi qui coordonne et présente ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Élise Kavira réalise cette émission et Billy Landry Betou s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Quels sont les préalables à réunir, les préalables à remplir avant de réviser la loi se rapportant à la libéralisation du secteur de l'électricité en RDC? C'est de ce thème que nous sommes en train d'aborder dans cette première tranche du magazine Okapi Service. La révision de la loi sur la libéralisation du secteur de l'énergie électrique en RDC est un sujet complexe et crucial pour le développement du pays, selon la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP en sigle. Pour la petite histoire, en février dernier, une nouvelle ordonnance loi numéro 25-025 a été promulguée pour modifier la loi de 2014. Des organisations comme les réseaux Mwanganza et l'Association congolaise pour les énergies renouvelables décentralisées à CER dans sigle ont émis des avis sur la nouvelle loi pour son manque de consultations préalables et des parties prenantes et pour certaines lacunes, notamment en matière de protection des droits des communautés locales et des promotions d'énergies renouvelables. Quels sont alors les préalables qu'il faut réunir avant de réviser la loi se rapportant à la libéralisation du secteur de l'énergie électrique en RDC? C'est de ce thème que nous sommes en train d'aborder avec Monsieur Emmanuel Moussouyou. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur de la CORAP. Monsieur Emmanuel Moussouyou, vous avez organisé l'an dernier les états généraux du secteur de l'électricité à la suite de la célébration des 10 ans de la libéralisation du secteur et vous étiez d'avis à l'époque qu'il faut réviser cette loi qui a montré assez de limites parce qu'il y a eu moins d'investisseurs dans les créneaux. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur ces projets de loi que porte le ministère des Ressources hydrauliques?
Bonjour monsieur Tati, et encore une fois de plus, bonjour aux auditeurs. Nous sommes très heureux justement de vous rejoindre dans ces discussions. Comme vous le savez, effectivement, en août 2024, la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, CORAP, avait organisé justement un forum national de la société civile sur l'énergie. qui a penché justement des réflexions par rapport aux 10 ans de mise en œuvre de la loi de l'électricité. À l'époque, on a pu constater qu'il y avait beaucoup de défauts et des défis qu'il fallait relever justement pour voir le secteur de l'électricité décoller. Mmh. Et parmi ces défis, justement, il y avait ce besoin d'améliorer la loi et ses mesures d'application. Il y avait d'autres questions essentielles, notamment la question liée au financement du secteur, la question liée au renforcement des capacités des acteurs, la question liée à la fiscalité et bien d'autres aspects. Et donc pour nous, 10 ans après, il était justement plus que temps que la loi soit modifiée. Mmh. Et notre demande demeure d'actualité. Alors, pour revenir à votre question, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a pris, des initiatives pour arriver justement à modifier cette loi-là. On n'est pas contre cette initiative, on la soutient d'ailleurs. Mais le problème, c'est que la démarche entreprise n'a pas été inclusive. Parce que les acteurs n'ont pas été consultés. Et il se remarque clairement que dans la réforme proposée par le ministre, qu'il y a beaucoup de questions essentielles qui n'ont pas été abordées, qui n'ont pas été prises en compte.
Lesquelles, par exemple?
Alors, ce qui dérange. Effectivement, donc, comme je disais, ce qui dérange, c'est que il n'y a pas d'esprit d'ouverture dans cette démarche, justement, de la réforme engagée. Qu'est-ce qui manque? Il y a beaucoup d'aspects qui ont été intégrés, commençons par là, et nous félicitons le ministre par l'initiative, par exemple, d'aborder la question des de façon large, des énergies renouvelables, d'intégrer la question de la transition énergétique qui n'était pas aussi prise en compte. Ce sont là, quand même, les quelques aspects, on est content. Mais le problème, c'est que, dans l'exposé des motifs ou dans quelques définitions, on a cité que ces initiatives-là, la transition énergétique, on n'a fait que citer. Mais la loi elle-même n'aborde pas clairement comment est-ce que le secteur intègre cette notion de transition énergétique, tenant compte surtout du fait que la transition énergétique est transversale. C'est pas seulement le ministère des ressources hydrauliques et électricité qui doit aborder cette question, ça implique plusieurs autres secteurs, l'environnement et autres. Donc, vous comprenez que c'est vraiment une question essentielle, mais qui est vide dans la loi. Alors, de façon globale, qu'est-ce que nous reprochons à cette loi? Nous reprochons à cette loi, justement, que des questions essentielles, encore une fois de plus, comme vous m'avez posé la question, il s'agit de quoi? On parle ici de la décentralisation énergétique, qui était une conséquence de la réforme de 2014. La loi de 2014 prévoyait que les autorités de province puissent être, donner le pouvoir au fait aux autorités de province d'initier et de prendre des décisions pour l'exécution de projets énergétiques qui sont justement ou qui concernent une province. Cela voudra dire que, par exemple, le cas de Matébé, le projet de barrage autour du parc de Virunga, qui produit aujourd'hui 13 mégawatts, c'est l'autorité de la province qui avait mené des études et qui avait donné des autorisations. Mais le ministre, dans sa nouvelle réforme, réduit le pouvoir des provinces à seulement 5 mégawatts. C'est-à-dire, au moment où je vous parle, une province ne peut autoriser un projet qui ne va jusqu'à 5 mégawatts.
Pas au-delà.
À partir de 5 mégawatts au-delà, il faut recourir au niveau national. Nous tous, nous connaissons 10 ans après la loi, comment est-ce que la lourdeur administrative au niveau national a existé. Il y a des entreprises qui ont fait 3 ans depuis, qui sont en train de chercher des autorisations,
mais qui n'en ont pas encore. Et nombreuses se sont découragées et elles ont abandonné tout simplement.
En effet, parce que en réalité, justement, la réforme doit encourager davantage l'arrivée des investisseurs pour qu'il y ait plus de production d'énergie, pour qu'on résolve, n'est-ce pas, cette question du taux d'accès ou d'accès pour tous à l'énergie qui demeure très faible. Et d'ailleurs, un petit mot par là, l'autorité de régulation dans son rapport 2024 renseigne que le taux est à 7,7% d'accès à l'électricité. Bien que le ministre parle de 21%, mais la réalité c'est qu'on n'a pas accès à l'électricité. Donc ça c'est une question.
Oui, donc monsieur Manuel,
il y a la question de la la fiscalité.
On va y aller monsieur Manuel, donc d'après vous, on devrait pas amender cette disposition de la loi qui donnait le plein pouvoir au gouverneur des provinces pour délivrer les permis d'exploitation ou d'investissement aux entrepreneurs qui aimeraient bien s'élancer dans la production ou la distribution de l'énergie électrique dans les différentes provinces.
En effet, parce que réduire ce pouvoir de province signifie autrement ou simplement réduire l'élan de l'évolution, n'est-ce pas, des projets au niveau des provinces. Vous voyez? Et donc, cela est contraire à la vision d'améliorer rapidement le taux d'accès pour tous à l'énergie. On a besoin d'un secteur qui est souple. On a besoin d'un secteur qui est attrayant. Renforcer davantage le pouvoir du ministre ou du niveau national réduit au fait, n'est-ce pas, la capacité des provinces. Et d'ailleurs, notez que cela peut aussi aller à l'encontre de la Constitution qui fait la promotion de la décentralisation énergétique ou carrément la décentralisation de façon globale, mais qui implique au fait de la décentralisation des secteurs comme celui de l'énergie. Donc, ça c'est un problème majeur. Un autre problème majeur. Vous savez que dans l'ancienne loi de l'électricité, l'aspect fiscalité n'était pas vraiment bien abordé. Il y avait peut-être un article qui abordait cette question. C'est la même chose. La nouvelle loi, malheureusement, ne renforce pas le cadre légal en ce qui concerne la question de la fiscalité. Alors que aujourd'hui, comme vous le savez, d'ailleurs, on en a eu plusieurs fois à discuter, les secteurs de l'électricité aujourd'hui est asphyxiante et il ne permet pas que des opérateurs viennent investir. Pourquoi? Parce que déjà, par exemple, en 2024, un opérateur était obligé de payer jusqu'à 83 taxes, impôts et redevances.
C'est beaucoup trop.
Vous rendez compte que la situation n'est pas forcément mise en place pour que l'attraction puisse être au rendez-vous.
Et
nouvelle réforme du ministre.
Oui, et les 83 impôts et taxes, c'est à payer chaque année.
Chaque année.
Ben là,
à différents niveaux.
Oui, s'il faut tenir compte des rentabilités et du coût d'investissement, ça pèse. C'est beaucoup trop.
Mais malheureusement, l'impact direct, c'est le coût d'accès à l'électricité, c'est le tarif.
Oui.
De l'électricité, parce que finalement, les opérateurs qui tiennent encore, qui pensent qu'ils peuvent encore continuer à opérer, seront obligés de réadapter, parce que la loi elle-même, elle dit clairement que l'électricité doit être payée à sa juste valeur. C'est-à-dire, la conséquence directe, c'est sur les ménages, c'est sur la population qui doit, payer le pot cassé dans la facture qu'ils doivent payer. Donc, la question de la fiscalité reste essentielle. Malheureusement, la loi n'améliore pas les articles qui abordent cette question, même si on est d'accord que la loi ne va pas aborder toutes les questions dans les détails. C'est là l'intérêt justement d'avoir des mesures d'application. Mais comprenez que il faut déjà que la loi mette une base importante. Alors, une autre chose que nous décrions, c'est le fait que le ministre veut davantage renforcer le pouvoir du ministre et réduire les pouvoirs et le rôle de certaines institutions. Et ici, on va citer l'autorité des régulations ou l'ANSER ou l'agence pour l'électrification en milieu rural et périurbain. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Le ministre a introduit une notion, n'est-ce pas, des licences spéciales. Cela voudra dire que il va déroger déjà à la loi sur la passation des marchés publics qui définit clairement que doit être n'est-ce pas un marché spécial. Il y a des catégories de marchés spéciaux qu'il faut considérer, notamment par exemple en ce qui concerne la défense, en ce qui concerne justement de questions de l'armée, etc. La loi est claire en cette question. Mais le ministre introduit une notion de marché spéciaux pour le secteur de l'électricité qui ne définit pas clairement déjà.
Oui, mais c'est un danger. Quelle est l'entité qui est censée gérer cette licence spéciale, ces documents? C'est toujours le ministère.
Non, mais qui délivre aujourd'hui, qui fait des études, qui donne des avis, c'est l'autorité de régulation pour le secteur de l'électricité. D'accord. Mais ici, cette démarche des marchés spéciaux voudra aller au-delà de l'autorité de régulation. C'est-à-dire quand on s'imagine que ou on se donne l'idée que ce marché est spécial. Le ministre va lui-même, avec peut-être ses experts, travailler sur le dossier et le faire valider en conseil des ministres.
Non, c'est...
Pour nous, nous estimons que cette démarche-là n'est pas forcément cohérente, parce que elle réduit le pouvoir, n'est-ce pas, des acteurs qui sont censés jouer ce rôle, et par contre donne le pouvoir au conseil des ministres où on ne trouve pas forcément des experts techniciens du secteur. Là, ce sont des politiques. Mais c'est plutôt les politiques qui vont valider des projets. Et ça, c'est un danger.
Monsieur Emmanuel...
Un autre aspect très rapidement, peut-être avant de passer, c'est au fait toute la question de vouloir créer des nouvelles institutions. Le ministre, dans la nouvelle loi, il parle de deux institutions qu'il veut créer, dispatching et guichet unique. Je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'expérience de Goma nous a renseigné qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes dans le dispatching. Nous estimons qu'on n'a pas besoin de créer une institution sur le dispatching. Par contre, on peut réfléchir sur une institution qui gère les aspects liés au transport de l'électricité, qui implique au fait la notion de dispatching et plein d'autres notions importantes, notamment sur les normes qu'il faut mettre en place et autres.
Oui, mais Monsieur Emmanuel,
simplement dispatching, cela n'est pas une bonne idée.
Oui, Monsieur Emmanuel, dispatching, c'est on sous-entend les transports de l'énergie électrique d'un point A à un point B.
C'est pas forcément le transport, mais là on vise beaucoup plus le dispatching. Comment est-ce qu'on repartit le peu d'énergie qu'on a? Vous voyez. Que déjà, notez qu'on est dans un secteur libéralisé, l'autorité peut avoir le pouvoir de dispatcher l'énergie par rapport à ce que lui il produit. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des privés. Mais comment est-ce que cette entreprise-là va dispatcher l'énergie de Nour ou de Virunga?
C'est illogique.
Vous comprenez?
C'est illogique.
Oui. Et donc, un service de transport, on est d'accord que tout le monde peut se connecter à une ligne de transport. Et d'ailleurs, ça relève, n'est-ce pas, de l'autonomie même du pays et justement de sa capacité à contrôler les lignes de transport. Et donc, la question de guichet unique également, reste aussi sur la table des discussions. Pourquoi créer une institution pour le guichet unique? Alors qu'il y a une possibilité, par exemple, d'utiliser les secrétaires généraux qui a des divisions dans toutes les provinces et qui peut collaborer avec les autres divisions des ministères, par exemple, des finances et d'autres ministères qui sont concernés par cette question de taxes. Et nous pensons que le secrétaire général peut jouer ce rôle-là de guichet unique pour faciliter justement à ce que les entreprises puissent avoir un seul point focal qui peut collecter les différentes taxes, impôts et redevances, et ce point focal pourra les redistribuer par la suite. Donc voilà un peu de façon globale les quelques questions de façon résumée justement qui nous inquiètent dans la démarche du ministre.
On vous garde en ligne, les temps d'aller au standard, Monsieur Emmanuel Moussouyou. Nous rappelons que vous êtes coordinateur de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique. Quels sont les préalables à réunir avant de réviser la loi ACE rapportant à la libéralisation du secteur de l'énergie électrique en RDC? C'est de ce thème que nous sommes en train de parler. Si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi ou encore le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Le premier auditeur, il intervient depuis Kasumbalesa, Justin Koulou. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour, monsieur Tati Mapoukou, et je dis bonjour à notre invité. C'est Justin Koulou de Fungurume.
Et non Kasumbalesa.
Je ne suis pas à Kasumbalesa.
D'accord.
Moi, je soutiens farouchement la libéralisation de la loi libéralisant le secteur électrique. Parce que, avec cette qu'on a eu déjà, cette loi qui était en train de nous servir, avec les systèmes auxquels nous sommes en train de traverser actuellement, ça ne nous aide à rien. Historiquement parlant, monsieur Tati Mapoukou, l'électricité que nous avons ici, c'était conçu pour alimenter les usines des expatriés, pour la fonderie et tout comme ça. Alors, on devrait les désengorger pour servir les travailleurs et aussi à d'autres besoins. Mais nous sommes sans ignorer que comme l'eau, c'est la vie, l'électricité aussi, c'est la vie. Il y a des endroits là où on doit être dans le noir, c'est pénible et tout se trouve par terre. Et les activités même paralysées, il y a même certains qui manqueront même à manger à la maison. Alors, c'est pourquoi ça me revient de dire que l'eau, comme l'eau c'est la vie, l'électricité aussi c'est pour la vie. Alors, nous devons vraiment y mettre autour d'une table, pas moi qui va se mettre. Nous avons nos envoyés, nos parlementaires qui doivent ipso facto libéraliser ce secteur. Puisque nous traversons, nous avons commencé à patauger dans des histoires là où certains escroquent les autres, partout ici, il n'y a pas de compteur. Il n'y a pas de quoi. Ce sont les facteurs, les factures forfaitaires, on vient, on te taxe. Parfois, tu utilises dans 30 jours, tu utilises 15 jours avec d'autres jours de délestage. Ce n'est pas le verbe que j'invente au-dessus, ça c'est tout partout. Mais sur la facturation, on ne tient pas compte de délestage, on te demande le mois en gros. Ça, c'est d'un seul côté. De l'autre côté, au moment que je parle avec vous, je suis à Louboudi. Là où Louboudi commence même à totaliser une année sans électricité. Pourquoi? Suite au vol du câble électrique. Et la société n'a pas, l'État n'a pas eu la possibilité de remettre les câbles pour desservir ces assujettis à avoir l'électricité. Donc, c'est déjà la faillite de la société. On ne peut pas aller tourner sur le dos du cuillère, dire que non, peut-être on va garder toujours cette loi. La loi est vraiment n'a pas réussi. Ce qu'on a eu à arrêter n'a pas réussi. Mmh. Et nos parlementaires doivent se mettre convenablement autour d'une table, définir convenablement cette loi. Et définir aussi, commencer aussi à l'accompagner, puisque la mission des parlementaires, ce n'est pas seulement voter les lois, et faire aussi les suivis. Donc, apparemment, ils ne font absolument rien. Les gens sont en train. S'il y avait des morts et des nouveaux-nés à Louboudi, et on devrait regarder ces gens-là comment, puisque on n'a pas l'électricité. Et si on demandait aux parents de commencer à contribuer avec les carburants pour utiliser les groupes électrogènes. Et est-ce que la famille pouvait avoir cet argent? Avec le courant, ça pouvait. Ce qui est rare et cher, libéralisons, avec l'ennemi de business, c'est la compétition, la concurrence. Quand l'Espagne aura des concurrents, il pourra aussi améliorer ses services. Mais pour le moment, au moment que je vous parle, en tout cas, l'Espagne a failli. Il est pas même faillir, il est mort complètement. Comment les gens de Louboudi diront, mais les gens de Luena, en commençant par Tshilongo, Louboudi, Luena, Bukama, on oublie même l'idée de l'électricité.
Oui, monsieur Justin.
Alors, on dira quel jour ils vont nous promettre.
Monsieur Justin, oui, pour votre information, le secteur a déjà été libéralisé il y a 10 ans, c'est fini en 2014. Là, nous sommes presque à la 11e année. Mais cette loi qui se rapporte à la libéralisation du secteur a démontré des limites lors de l'évaluation. Et voilà pourquoi il y a des processus visant sa modification. Et est-ce que vous avez une question particulière à poser à notre invité?
Alors, je pose à notre invité, qu'est-ce qui empêche l'application efficace? Ou soit, il y a eu des alinéas qui avaient freiné les gens à bien appliquer cette loi. Ou soit, qu'est-ce qu'il faut encore faire pour améliorer ce qui n'a pas marché? Et ça y est, dans les tutelles de qui ne fait pas bien son travail?
Merci.
Que ce sont des questions.
Merci beaucoup, monsieur Justin Nkoulou de Fungourou. Mais nous tenons à signaler que tous les efforts conjugués pour avoir les ministres des tutelles, les ministres des ressources hydrauliques depuis lundi de cette semaine n'ont pas donné des résultats. Espérons que prochainement, il sera disponible pour venir éclairer la lanterne de l'opinion publique concernant ces projets. Je retourne ici à Kinshasa pour donner la parole à Elvis. Elvis, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, bonjour, monsieur Tati.
On vous écoute.
Ouais, je salue aussi notre invité. Je pouvais avoir peut-être des ou une question à la fin, mais je l'ai bien suivi. Selon son introduction, il a bien dit, mais nous savons que le secteur a été déjà libéralisé il y a déjà 10 ans. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Qu'est-ce que nous pouvons dire peut-être? Même nous qui vendons, les gens qui font des choses. Lorsque vous faites une histoire, vous donnez quelque chose à quelqu'un ou vous investissez à un domaine et vous trouvez que ça ne marche pas. C'est à vous de voir où les conditions que vous avez mises, les conditions que vous avez mises sont un peu plus élevées par rapport aux investisseurs. Par exemple, lorsqu'il a dit, l'invité a dit que quelqu'un peut arriver à mais il compte dans celui à lui qu'il doit payer au moins 80 taxes à une année. Mais c'est j'ai dit, monsieur Tati, imaginez quelqu'un peut commencer une activité alors peut-être qu'il ne sait même pas que ça peut aboutir ou ne pas aboutir. Comment il peut d'abord prendre de son argent et maintenant investir l'argent à plus de 84 taxes pour arriver peut-être à rembourser d'argent avant la fin de l'année? J'ai revu aussi ce que le président vient de dire. Peut-être la SNEL est celle. C'est pourquoi il fait tout ce qu'il a tenté de faire pour nous ici à Kinshasa. Si peut-être il y avait un concurrent sérieux, peut-être, où on vient réviser encore cette loi pour modifier certaines choses, peut-être qui freinent, parce que nous savons que c'est un secteur qui peut encore faire entrer beaucoup d'argent. Et il y a des gens qui peuvent aussi investir. Mais si les gens se retiennent, c'est parce que, comme l'invité l'a dit, il y a assez. On peut maintenant modifier. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui a réduit? Qu'est-ce qui peut empêcher que les investisseurs puissent arriver pour refaire sur ce domaine? Parce que si nous remarquons ici, comme le président l'a dit, ça peut arriver que 3 jours, on n'a pas du courant. Nous l'avons toujours dit dans ces émissions. Il y a 4-5 jours, il n'y a pas de courant. Comme ici au marché, chez nous, les dollars que nous vendons, on a fait une semaine. Ça, il n'y a pas de courant. On est obligé à acheter parce qu'elle s'est déjà dérangée. Et lorsque le courant sera rétabli après une semaine, mais la perte que nous faisons, est-ce que la SNEL va nous payer?
Non.
Mais à la fin du mois, lorsque la facture vient, vous allez trouver que peut-être, parce qu'à la fois, parce qu'on a payé 57 000, avec une semaine ou 2 semaines qu'on vient de passer qu'il n'y a pas de courant, vous allez trouver que ça va encore monter à 60. Alors, on ne comprend pas. Alors, si on trouvait peut-être autre. C'est-à-dire, autre concurrent qui peut dire que non, moi je vous offre le courant, peut-être de 6h à 12h, 12h, 13h repos, de 17h à 18h, il faut payer même par semaine. Moi je vous dis que Tati, si quelqu'un vraiment sèvre à ce domaine et qu'il garantit les gens, je pense que la SNEL pourra aussi améliorer ce secteur.
Ah, ok. Donc, d'après vous, ça, c'est important de mettre en place des mécanismes qui vont encourager les investisseurs à se lancer dans ce secteur parce que, oui, c'est vrai que le secteur a été libéralisé, mais ici, par exemple, à Kinshasa, il y a presque pas d'entrepreneurs qui se sont lancés. Merci beaucoup, Monsieur Elvis. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Cette fois-ci, nous allons à Mweka. Donner la parole à Stéphane. Stéphane, bonjour et bienvenue dans Capi Service. Monsieur Stéphane, malheureusement, Monsieur Stéphane est loin de son téléphone. Est-ce que vous m'entendez, Stéphane? Malheureusement, on va essayer de relancer Monsieur Stéphane qui voulait intervenir de Mweka. Je me tourne vers vous, Monsieur Emmanuel. Comment répondez-vous à nos deux auditeurs, Justin Koulou et Elvis de Kinshasa?
Merci beaucoup, Monsieur Tati. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les deux intervenants. Et s'il faut que je commence avec celui de Kinshasa, Elvis. Donc, je pense que oui, les plaintes sont réelles. Et heureusement qu'à Kinshasa, on a encore même le peu d'énergie. Mais c'est dommage quand même que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore vraiment des populations dans nos villages qui n'ont jamais vu de l'électricité. C'est très dommage. Et j'en parle pourquoi? Parce que la loi de 2014, l'un des objectifs principaux était celui d'accroître le taux d'accès à l'énergie au niveau national, c'est-à-dire des zones urbaines et des zones périurbaines et rurales. Et s'il faut faire une petite évaluation, je me rappelle très bien à l'époque, autour de 2014, on parlait de plus ou moins 16% d'accès à l'énergie. Les temps sont passés, on est en 2019, quand le mandat du président Tshisekedi commence, on est passé de 16 à 9%.
Et aujourd'hui, on est à 7.
Et aujourd'hui, on est à 7,7%. Cela voudra simplement dire que l'objectif fixé dans cette loi il y a 10 ans n'a pas été atteint.
Tout à fait.
Ce qui doit renforcer la nécessité d'améliorer ce cadre légal-là et d'être stratégique, se référant aux expériences passées, pour saisir au fait les meilleures opportunités. Et c'est là l'essence d'avoir une loi aujourd'hui qui répond réellement aux attentes, qui est réellement basée sur une évaluation stricte des erreurs du passé pour qu'on parte de 16 à 7% d'accès à l'énergie. C'est ça que nous voulons que le ministre comprenne. Et c'est dommage quand même que voilà, le ministre pense par moment que nous sommes en train de combattre son action. Non, notre démarche, c'est que, n'est-ce pas, cette loi qui veut être modifiée vienne répondre aux questions que Elvis est en train de poser et tout le monde est en train de poser. Pourquoi on va garder une fiscalité qui ne permet pas au fait à ce que les acteurs viennent en jeu? Vous rendez compte? Et donc, ce sont là des questions importantes. Comment est-ce qu'on va réduire le pouvoir des provinces sans que ce dernier ne soit plus capable, au fait, d'avancer rapidement pour qu'il y ait plus d'investisseurs? Par contre, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en province? D'abord, la majorité d'acteurs ne comprennent pas l'essence de la décentralisation énergétique. Ils ne sont pas renforcés en capacité. Ils n'ont pas été, ils bénéficiaient au fait d'une vulgarisation efficiente et efficace de l'ancienne loi. Pour moi, ça fait partie des priorités. Comment on renforce davantage les capacités des acteurs à chaque niveau pour que ce dernier soit à même de rendre effectif la décentralisation énergétique? Vous comprenez?
Oui.
Et donc, il y a aussi une autre chose que je n'ai pas mentionnée depuis tout à l'heure, qui cadre aussi avec ce que disait Justin. Au fait, c'est la question des garanties. Si dans des zones, dans certaines zones comme l'Ouboudi, ils ont fait une année sans avoir accès à l'électricité, c'est dans d'autres zones où, voilà, ils n'ont jamais été connectés au réseau et autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, quand on voit les effets de la libéralisation du secteur, on verra qu'il y a beaucoup plus des projets qui ont émergé. Dans le Nord Kivu, il y a des projets qui ont émergé dans le Haut Katanga ou carrément dans le Lualaba. Et si vous observez, vous lisez le dernier rapport de l'autorité de régulation, vous allez vous rendre compte que on a quand même une trentaine d'opérateurs aujourd'hui, mais où se situent ces opérateurs? Ils sont beaucoup plus dans le Katanga, dans le Grand Katanga, dans le Nord Kivu, un peu dans le Congo central. Mais qu'en est-il des autres provinces comme la Chuapa,
Équateur,
les autres provinces ici comme Maïndombe,
Isala, Bumba?
Qu'en est-il de toutes ces villes et toutes ces provinces? Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? L'ancienne loi n'a pas forcément, ou l'ancien cadre légal n'a pas forcément mis l'accent sur comment est-ce que le pays devait renforcer, mettre en place au fait des garanties pour inciter des investisseurs à venir dans des zones considérées, n'est-ce pas, comme étant pauvres, parce qu'on dit que voilà, les communautés dans toutes ces zones citées n'ont pas la capacité de payer de l'électricité. mais c'est de la responsabilité de l'État. Dans un cadre légal adapté, il est question justement de mettre en place des garanties. Mais la loi ici qu'on vient, que les ministres viennent d'aborder, en aucun article on a abordé la question des garanties alors qu'elle est essentielle. Vous comprenez? Donc, cher Justin, cher Elvis, la libéralisation est effective depuis, au fait, elle est actée depuis 2014, mais l'effectivité reste justement un problème parce qu'il faut que l'incitation soit là. Il faut que les acteurs qui veulent venir se sentent intéressés par le secteur pour avancer. Et le contexte aujourd'hui, en tout cas, rassurez-vous, ne peut pas permettre à ce que les choses aillent vite, ne peut pas permettre à ce que des investisseurs se sentent en confiance pour qu'ils viennent. Donc, c'est cela, c'est ce que je peux dire à cette question-là. Après, je vais aborder un autre aspect de votre intervention, cher Justin. Vous faites appel aux parlementaires pour qu'ils adoptent une loi ou qu'ils développent une loi adaptée. Voilà, c'est ça notre démarche avec le réseau Mwangaza et Acerv que nous qu'on est en train de mener. Pas plus tard que avant-hier, d'abord c'était je pense lundi ou mardi, le ministre était devant le Parlement pour solliciter un projet d'habilitation de la loi qu'il a fait valider rapidement en décembre, parce que au fait le Parlement était en vacances parlementaires. Qu'est-ce qui se passe en termes de procédure? En réalité, c'est le Parlement qui modifie la loi. Alors, quand le Parlement est en vacances, le gouvernement doit faire valider un projet d'habilitation pour que le Parlement lui donne l'autorisation d'avancer avec des modifications d'une loi. Et quand elle le valide, elle doit revenir au Parlement au moment où le Parlement reprend ses activités pour que le Parlement ratifie cette loi afin que le chef de l'État le promulgue. Le défaut, il est à quel niveau? Déjà, un, nous avons parcouru la loi les dernières lois d'habilitation du Parlement. Nulle part il était mentionné l'autorisation qu'ils ont donnée au gouvernement de travailler sur la loi sur l'électricité. Ça, c'est un premier défaut de procédure. Deuxièmement, ils ont rapidement validé en conseil des ministres cette loi et ils ont fait à ce que le chef de l'État signe la loi et qu'elle soit promulguée. Elle est promulguée tout de suite au journal officiel. Alors que la deuxième étape parlementaire, qui est, n'est-ce pas, la ratification, n'a pas été
respectée.
Aujourd'hui, le ministre ramène une loi déjà promulguée pour que le Parlement ratifie. Alors que cette loi contient aussi beaucoup de faiblesses. Et c'est cela que nous apprécions la démarche parlementaire. Elle n'a pas été validée, elle a été renvoyée en commission. Et nous avons participé aux discussions en commission la dernière fois. Et donc, notre demande à la présidente de la commission infrastructure du Parlement, c'est que cette loi-là qui doit bénéficier de la ratification, il ne faut pas qu'elle soit ratifiée à l'état où elle est aujourd'hui.
On vous garde en ligne, on retourne.
À la population qui n'a pas d'électricité. Et il faut améliorer au fait cette loi par rapport aux propositions que nous avons faites pour qu'on soit sûr que peut-être les 5 ou 10 prochaines années seront favorables pour le pays.
On retourne au standard, Monsieur Emmanuel Moussouyou. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur de la CURAP. Et au cours de ces rendez-vous, on est en train de tabler sur le préalable à réunir avant de procéder à la révision de la loi se rapportant à la libéralisation du secteur de l'électricité en RDC. Et nous rappelons que tous les efforts conjugués pour avoir les ministères habilités, qui est celui des ressources hydrauliques, n'ont pas produit de résultats depuis lundi passé. Je pars au standard pour donner la parole au premier auditeur de cette deuxième vague d'intervention. Il s'agit de Maître Omar. Bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour Monsieur Tati et bonjour à l'invité.
Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kinshasa. Vous la parole.
Merci beaucoup Monsieur Tati. Ça fait très mal et c'est avec nettement du cœur que j'interviens car l'invité ne me contredira pas. Parmi les indicateurs de développement humain déterminés dans une nation, il y a l'accès à l'électricité. Or, à ce jour, c'est en dessous de la moyenne. C'est grave en plein 21e siècle. Deuxième chose, nous avons un problème, M. Tati. Je voudrais aussi que l'invité en partage. Nous vivons dans les mimétismes et dans les suivismes. Comme tout le monde a l'OADA, on doit avoir l'OADA au Congo. comme tout le monde libéralise, on doit aussi libéraliser. Alors que la loi doit refléter les réalités économiques, sociales et politiques du terrain. Comme tout le monde fait le numérique, on doit savoir le numérique. On ne refuse pas l'évolution, mais doit s'adapter aux réalités. À l'époque, lorsqu'on a voulu libéraliser, moi je parlais des trois pesanteurs qui pourraient bloquer. La première pesanteur, c'est le climat des affaires. Il s'agit de l'investissement, monsieur Tati. Mm. Lorsqu'on a libéralisé, on s'est rendu compte que le monopole ne réussissait pas. C'est un investissement des grands capitaux. Et l'invité ne vaut pas de plus de 83 taxes. Moi, je vous ajoute les phénomènes COP.
Vous pour faire passer le dossier, oui.
Pour que l'État finance, il faut que le conseiller puisse valider. La fois passée, lors de la visite, la première ministre a reçu la dénonciation d'un entrepreneur dont les conseils étaient cités. On n'a pas tenu compte de cela. Il n'y a aucune mesure incitative, si vous lisez la loi de 2014. Deuxième chose, je fais allusion au PIB du Congolais. La loi n'a de sens que si elle est faite pour l'intérêt de la société. La majorité des Congolais n'ont pas de moyens. Quand un investisseur privé vient investir, excusez-moi la redondance, il met en place des moyens, il va fixer des prix élevés. Déjà, on n'arrive pas à payer la SNEL nationale. Où trouverons-nous de moyens pour payer l'électricité privée? On n'a pas tenu compte de cela. Troisième chose, il y a un manque d'absence de concertation entre les privés et l'État. Il faut qu'on en tienne compte à la prochaine réforme. Il y a un problème sérieux. Avant, les monopoles revenaient à l'État. Et la loi sur le prix détermine certaines matières où l'État a les monopoles de fixation, dont notamment l'électricité. Vous libéralisez les secteurs. Les privés viennent. Ils investissent. Et vous voulez leur imposer les prix. C'est ce qui fait problème. Mmh. Il faut qu'on mette en place un cadre de concertation des prix entre les privés. Et cette loi sur le prix doit être aussi modifiée pour dire que c'est vrai, les secteurs de l'eau, des mines, de l'électricité revient à l'État, mais dans les cas de l'électricité, comme il y a libéralisation, il faut qu'on en tienne compte. Ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs sont en train de souffrir, on leur impose des marges qu'ils ne peuvent pas dépasser, alors qu'ils sont investisseurs. Ce ne sont pas nos oncles, ce sont des investisseurs. Mmh. Voilà pourquoi moi je propose, comme elle l'invitait, premièrement, il faut assainir le climat des affaires. Il faut des mesures incitatives, notamment avec un allègement fiscal. Le secteur électrique est un secteur vital pour la nation. Il faut industrialiser, il faut faire ceci. S'il n'y a aucune mesure incitative, rien ne marchera. De deux, il faut qu'on mette en place les cadres des concertations. Il faut qu'il y ait une corrélation entre l'entrepreneur et les consommateurs que nous sommes. Il n'y en a pas. Si vous lisez, l'invité pas des lois là-bas, des Colouésies, ce sont des provinces riches où il y a beaucoup d'opérateurs qui se retrouvent. Mais allez en Bandaka, qui va vous payer l'électricité privée? Il faut qu'il y ait ce cadre-là des concertations privées. Et en fait, il faut qu'il y ait bonne gouvernance. Si vous lisez bien la loi dit que nous favorisons le libéralisme, mais les taxes et impôts qui sont payés doivent aider aux projets ruraux, avec notamment le lampadaire, quoi que je veux dire, le panneau solaire, avec notamment le financement du secteur public. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qui est collecté? Il est démontré en économie que la première source de financement budgétaire, ce sont les impôts. Les privés payent. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Voilà mon avis. Je salue totalement ce qu'il a invité. Il dit que Dieu le bénisse pour cet apport. Mais je crois, dans la prochaine réforme, s'il y en aura, qu'on tienne compte du climat des affaires, du PIB des Congolais qui doit être révisité, et d'un cadre de concertation entre les privés et c'est lui qui fixe le prix.
Merci beaucoup, Maître Omar. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Cette fois-ci, partons à Lubumbashi pour donner la parole à Monsieur Achille. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour Tati, bonjour à tout le monde.
On vous donne la parole.
Merci pour la parole. Et d'emblée, je voudrais quand même que l'invité me fasse comprendre le concept libéralisé et privatisé. Comment il peut m'expliquer à ce point-là?
La nuance qui entre ces deux concepts.
Je vais faire des confusions sur ce point-là.
D'accord. Oui. Vous n'avez que ça comme préoccupation?
Je voudrais ajouter quelque chose pour parler. Oui, oui. Vous parlez de la modification, on peut tout modifier dans ce pays, les lois, parce que les lois existent. Hein. Moi, je pense que le problème, c'est pas modifier ou créer des lois. Le problème, c'est l'homme congolais. Parce qu'on peut changer avec les mêmes personnes, et rien ne va changer. Prenons peut-être ceux qui gèrent là. On les plante, on les met en France pour gérer les courants en France. Et on prend ceux qui gèrent les courants en France, on les met ici. Vous verrez qu'il y aura des différences. Alors, moi, je me rappelle un jour, parce que j'étais à Manono, il y avait un courant que les Blancs étaient en train de gérer des Congo éteints, parce que c'était les Blancs qui géraient, et ce courant-là était là chaque jour, tous les jours, 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce que c'était des blancs qui géraient. C'est pour ça, moi, je voudrais ici dire que non, non. Il faudra que ces secteurs soient vraiment privatisés. Parce que je voudrais que l'invité, d'abord, me fasse comprendre quand il dit de la libéralisation et la privatisation. Qu'il me fasse vraiment comprendre.
D'accord.
Prenons l'exemple aujourd'hui.
Oui.
Les réseaux Orange ou bien Airtel. Si c'est l'État qui gère ça, est-ce que vous pouvez me dire que nous aurons vraiment les réseaux ou la connexion aujourd'hui?
De qualité.
Dans un mois, nous aurons combien de temps de réseaux?
Merci beaucoup. L'invité va revenir sur cette nuance-là que tu as relevée, libéralisation et privatisation. Cette fois-ci, on part à Kisangani pour donner la parole à Tagamile. Thomas, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Je suis... Allô?
Allô, nous vous recevons. Allô, allez-y.
Oui, ce n'est pas Thomas, c'est M. Tagamile depuis l'université Shalom de Bounia.
À Bounia, ok, merci. Enchanté.
Oui, j'ai suivi les précédents et puis j'ai suivi l'invité qui est en train de faire des bons décors. Alors, j'aimerais soulever la loi là du 7 juin 2014. Vous savez, dans son article 4, excusez-moi, qui dit « Le service public d'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national dans le respect de l'intérêt général. » Vous savez, le maître qui a intervenu avant moi, il a posé certaines questions. Vous savez aussi, il a dit l'électricité, c'est l'indice de développement de la première taille.
Tout à fait.
Vous savez, aujourd'hui, lorsque nous parlons l'émergence de la RDC d'ici 2030, c'est que la RDC soit quand même un pays émergent, aussi beaucoup d'aspects, aussi l'industrialisation, mais on ne peut pas parler de l'industrialisation sur le tatif, ça pour autant
sans électricité.
À l'aspect électrique.
Tout à fait.
C'est tout à fait des choses qui sont à faire de marcher ensemble, donc qui marchent concomitamment ensemble. Alors ici à l'RDC, peut-être avant de réviser les lois qui existent, il faudrait peut-être se poser la question de savoir dans la loi qui existe, quels sont les articles qui sont d'abord respectés et quels sont les articles qui feront alors objet de révision. Parce que ici, je vois, il y a les articles qui garantissent quand même. Par exemple, ici, on dit, c'est l'État qui doit garantir l'approvisionnement dans tous les territoires de la RDC. Alors, il faut se demander, est-ce que vraiment tous les territoires sont desservis en électricité, vrai ou faux? Et c'est tout à fait cette question que nous devons traiter à bras le corps, et je pense que ça va aller dans ce sens. Moi, je pense qu'autre préalable serait la sensibilisation. Vous savez, nous avons une mauvaise manière de l'utilisation de l'énergie. Il faudrait peut-être aussi sensibiliser la population sur la manière dont elle est en train d'utiliser l'énergie, mais également les assises mondiales qui traitent sur la question des renouvellements de l'énergie, et on conseille beaucoup plus d'aller vers les énergies propres et renouvelables, et qui ne peuvent pas peut-être créer beaucoup de problèmes, et qui ne peuvent pas peut-être nous herder avec l'État, parce que nous avons la capacité de notre État de pouvoir nous servir en électricité, c'est encore en dessous de la moyenne, comme mon ami venait à peine de le dire. Alors si donc nous avons besoin de réviser la loi qui existe, nous devons voir quels sont les articles qui seront révisés, et mais aussi quels sont les articles qui doivent être beaucoup plus consolidés, mais aussi il ne faut pas oublier la sensibilisation de la population, que la population comprenne d'abord la matière de l'électricité et que la population se donne, et je pense qu'avec ça, nous allons vraiment essayer de changer la situation de l'électricité dans ces pays.
Merci beaucoup, M. Tagamile. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bounia que vous intervenez. Cette fois-ci, on part à Kolwezi. Je pense que c'est la dernière intervenante pour cette tranche parce que les temps s'égrènent vite. Madame Claudia, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, Monsieur Tati. Bonjour à l'invité. Merci pour la parole accordée. Le débat tourne autour des préalables à réunir avant de réviser la loi se reportant à la libéralisation du secteur de l'électricité en RDC.
Tout à fait.
Au fait, où se situe le problème jusque-là? Parce que la population a beaucoup souffert. Et au rythme avec lequel nous sommes en train d'évoluer, je vous assure que l'énergie électrique est en train de disparaître petit à petit dans ce pays. Nous avons des dirigeants, nous avons le ministère de l'énergie et consorts. Mais qu'est-ce qu'ils font pour améliorer la situation des communautés? Ils sont dirigeants, pourquoi s'ils ne peuvent pas résoudre ce problème? Où se situe le problème? Pourquoi cet échec si criant? Permettez-moi de vous donner un petit exemple. Ici à Kolwezi, nous avons la cité de Gekanine Kolwezi qui est en train de disparaître petit à petit, laissant la place à la société Comus. Qu'est-ce qui se passe avec les anciens habitants de cette cité? ils ont vécu pendant longtemps dans cette cité tout en jouissant d'une bonne qualité en énergie électrique.
Okay.
Mais délocalisés par la société commise, ils sont allés acheter des parcelles par-ci, par-là, et ils, maintenant ils connaissent une vie sans énergie électrique. Vous voyez un peu? Parce que c'est ça le développement. Où se situe l'amour pour la patrie? Vous voyez les personnes qui étaient en train de jouer du courant, mais toutefois, ils connaissent maintenant une ville forte. Ils avaient presque même plus de 10 ans, 8 ans comme ça, tout en train de vivre sans énergie. Alors, où se situe le développement? C'est un peu ce que j'ai comme préoccupation. Merci.
Merci beaucoup, Madame Claudia, pour ton interpellation. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kolozi que vous intervenez. Emmanuel Moussouyou, je me tourne vers vous en 2 minutes. Comment répondez-vous à ces 4 derniers intervenants?
Alors, merci beaucoup. J'ai bien suivi nos 4 intervenants, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, parce que chacun d'entre eux a apporté quelque chose de très important
tout à fait
dans ces discussions. Et peut-être juste placer un mot par rapport à ce que disait Maître Omar. Effectivement, le climat des affaires reste un blocage important pour le développement des investissements dans ce secteur-là. Et donc, il est nécessaire que l'État puisse s'y mettre, tous les services concernés puissent s'y mettre pour qu'on trouve une solution par rapport à ça. Il y a en fait la question sur la différence entre libéralisation et privatisation. En des mots simples, ce que nous pourrons dire, c'est que la privatisation fait allusion à une entreprise publique ou à un service public qui a été ouvert, en fait, à des activités privées. Donc, c'est comme la SNEL, l'autre fois, c'était une entreprise publique de l'État, mais elle a été privatisée et aujourd'hui, c'est une entreprise commerciale. Elle est ouverte à d'autres investissements ou carrément à d'autres acteurs qui peuvent mettre de moyens. Par contre, la libéralisation fait appel, au fait, à un secteur qui autrefois était simplement consacré aux investissements publics. Et cette fois-là, on l'ouvre, au fait, à des investissements plutôt privé et voilà, il donne la possibilité à tout acteur justement qui a les possibilités d'agir, de venir en jeu. Après, toute la question du service public de l'électricité demeure aussi une priorité parce que justement, il faut arriver à donner de l'électricité à tout le monde partout où il se trouve sur l'ensemble du territoire national. C'est comme ça que nous insistons que la loi que le ministre veut modifier puisse vraiment intégrer les grands enjeux ou les questions essentielles pour que les fondements soient bons, pour que l'appropriation soit effective par tous les acteurs et que les résultats soient rapides.
Et les
On
souhaits,
sait que le ministre justifie souhaits, son action par le fait que...
Oui, monsieur Manuel, les souhaits de l'auditeur de Bounia, c'est d'impliquer tout le monde, pour réviser la loi d'une manière beaucoup plus rationnelle, en tenant compte des avis des uns et des autres.
Ça, c'est même la clé, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il faut qu'il y ait une appropriation. Mais on a une appropriation si seulement tout le monde a été associé, si les préoccupations des uns et des autres ont été prises en compte. C'est la même chose que disait Madame Claudia Duloy là-bas. C'est-à-dire que c'est le même contexte partout. Mais après, qu'est-ce que nous demandons maintenant? Premièrement, la réforme qui est en cours, nous demandons que le Parlement ne puisse pas l'adopter telle que proposée par le ministre. Nous invitons le Parlement à s'ouvrir à tous les acteurs nécessaires.
Tel qu'il a suggéré l'auditeur de Bounia.
Pour qu'on améliore le texte, pour qu'on améliore ce texte-là de sorte qu'il soit participatif et que tout le monde s'en approprie. Ça, c'est de un. Des deux, nous pensons qu'il y a 2 choses que le ministre a sautées pour le moment en allant directement sur la loi. C'est d'abord la question de la politique nationale de l'énergie. Où est-ce qu'on en est? Ça devait être la priorité des priorités. Le pays devait avoir une politique qui a une vision qui oriente justement le pays. Il y a la question de la planification intégrée et inclusive de l'énergie. Qu'est-ce que cela voudra dire?
Oui, monsieur Manuel.
Au stade où on
est, Manuel,
quand on parle de la transition.
S'il vous plaît, monsieur Manuel, là, on est coincé par les temps. Oui, je pense que ce n'est qu'une partie remise, Nous rappelons que vous êtes le secrétaire exécutif de la CORAP. Excellente journée. Les temps s'égrènent vite. On est censé récupérer l'antenne. Excellente journée.
Nous vous remercions pour l'invitation. On pense que cette émission pourra apporter quelque chose dans ce plaidoyer que nous sommes en train de mener. Merci beaucoup.